L'évangéliste Luc a placé cette parabole du gérant malhonnête juste après les paraboles trois en une que nous avons méditées dimanche dernier, celle de la brebis, de la pièce et du fils perdu et retrouvé. Cette parabole, elle nous disait en substance, vous vous souvenez, que Dieu sauve aujourd'hui ceux qui sont perdus. Il va les chercher ou il les laisse venir librement, mais tout ce qu'il fait ou tout ce qu'il ne fait pas est guidé par son amour, par sa patience, par sa tendresse. Avec la parabole du gérant infidèle, nous changeons de milieu. Il n'est plus question de pécheurs indécrottables, d'ados en crise. On se trouve maintenant dans le monde des affaires, de l'entreprise. C'est du sérieux, quoi. Les patrons, les DRH et autres directeurs des affaires financières. Comme je ne connais pas bien vos professions, si peu, j'ai pris des libertés de candide. Laissez-moi en profiter encore un peu. Si la parabole précédente s'adressait, vous l'avez peut-être retenu, aux pharisiens, aux religieux de l'époque, qui avaient été choqués d'avoir vu manger Jésus avec des pécheurs, celle-ci, elle s'adresse à ses propres disciples. Cette histoire de gérant infidèle s'adresse par extension aux futurs administrateurs de l'Église. Vous voyez que on sent un peu d'inconfort arriver, hein ? Oui, parce que pendant que les pharisiens en prenaient plein les dents avec la première parabole, nos disciples se frottaient les mains. Ils se sentaient du bon côté de l'horizon. Eh bien, c'est à leur tour maintenant de se sentir un peu à l'étroit dans leur manière d'être, de servir peut-être. Pour Jésus, il est clair que l'Évangile ne s'adresse pas qu'à ceux du dehors, aux grands pécheurs. Il faut l'entendre, ceux du dedans ont aussi besoin d'évangélisation. C'est précisément ce que va opérer notre parabole, et je dois vous avouer qu'elle m'a donné du fil à retordre. Elle vient expliquer aux disciples ce qu'est le véritable service chrétien. Elle vient aussi, l'air de rien, nous réexpliquer au cas où nous l'aurions perdu de vue, ce qu'est ce service chrétien. Bref, je vous invite à un moment d'inconfort. C'est le texte du jour, je n'ai pas cherché cela, c'est venu. Un homme riche, avait un gérant, et on vint lui rapporter que ce gérant dilapidait ses biens. L'homme riche, dans les paraboles, c'est la figure de Dieu. Les gérants, les économes, ce sont des gens qui s'occupent des affaires de Dieu. Prenez les paraboles des vignerons et d'autres encore. Et une partie des affaires de Dieu s'appelle l'Église. Et les gérants, ce sont les serviteurs de l'Église. On va dire les missionnaires, les témoins du Christ aussi sur la terre. Et le boulot de notre gérant, c'est de placer les intérêts de son maître et de les faire prospérer. Notre gérant pique dans la caisse. Il s'y sert abondamment et se rend responsable d'une dette qui le dépasse complètement. L'affaire est dévoilée, notre gérant est cuit. J'essaie de me mettre un peu dans la peau, mais alors là, c'est très personnel et subjectif, hein, de ce gérant. Au début, quand on fait des choses pas bien en secret, on a honte. Mais puis, on s'habitue. Et ça devient de moins en moins difficile à faire. Et puis, on finit par trouver ça normal. C'est la tentation du serviteur. Confondre le bien de Dieu avec sa propre affaire. Confondre l'Église du Christ avec notre propre affaire. Voilà la tentation du serviteur. Et puis, s'ajoute aussi une tension, une difficulté, c'est celle, quand on est un gérant comme ça, c'est celle de devenir dur avec les autres. On s'accorde toutes les grâces divines, mais on tient un compte méticuleux de la dette des autres, au centime près. Qui ne voit se dessiner peu à peu dans le miroir de la parabole un peu son propre visage ? Je ne vais pas vous demander de lever la main, hein. Regardez ça. Bienveillant envers soi-même, mais intraitable avec les autres. Ne sommes-nous pas des degrés divers, ces serviteurs-là ? Et c'est à mon sens ici, précisément, que réside l'injustice de notre gérant. Son système à deux poids, deux mesures, une pour lui, une pour les autres. Poursuivons la lecture. Le maître l'appela et lui dit : qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Présente-moi et compte de ta gestion, car tu ne pourras plus être mon gérant. C'est simple, Dieu ne tolère pas l'injustice. Il n'approuve pas ce pardon qu'on s'accorde généreusement à soi-même. D'autant plus que on se trouve toujours juste soi-même, on se trouve souvent, plus on se trouve juste soi-même, plus on a tendance à trouver les autres injustes. Une espèce de rapport un peu comme ça, un peu pervers, un peu malsain. S'excuser, c'est toujours accuser quelqu'un. S'absoudre soi-même, c'est toujours guillotiner quelqu'un. Et vient le jour où Dieu dit stop, ça suffit. Il ne peut permettre que sa bonté, que sa grâce soit piétinée indéfiniment. Et le jugement tombe et le ripou est mis à pied. Mais j'attire votre attention là-dessus. Notez que Dieu, avant de mettre son jugement à exécution, aménage un délai. C'est implicite dans le texte, mais il y a là, il y a un sursis que notre gérant escroc va exploiter à fond. De manière très inspirée. Pour se sortir du pétrin, il va monter une astuce à faire pâlir un trader new-yorkais. Il va devenir bon. Permettez-moi de relire le passage un peu librement. Le gérant se dit en lui-même : mon licenciement pour faute grave est inévitable. Que faire ? Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas bon. Demander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Alors, voilà ce que je vais faire, et quand j'aurai perdu ma place, les gens me recevront chez eux. Et il fait venir, un à un, tous ceux qui boivent quelque chose à son maître, et il leur remet une grande partie, une énorme partie de la dette. Voilà notre gérant qui continue à dilapider le bien de son maître. Seulement cette fois, il ne le fait plus pour son compte personnel. Il vole au profit des autres. Dans son malheur, il vient de découvrir quelque chose d'essentiel. Il a besoin des autres. Et il découvre que sans ces autres, qu'il traitait autrefois avec froideur et dureté, on ne plaisante pas dans les affaires, sans eux, il n'a plus d'avenir, il n'est plus rien. Alors maintenant que son temps est compté et que son compte est réglé, le gérant se met à prendre soin de la vie des autres. À commencer par les plus gros débiteurs, il procède à des remises de peine hallucinantes, de dettes hallucinantes, il n'est plus médiateur de la colère, il n'est plus comptable, il est médiateur de la grâce et du pardon. Et le maître loua le gérant malhonnête d'avoir agi si habilement. Tout est scandaleux d'un point de vue moral dans cette histoire, vous êtes d'accord? Non seulement l'attitude du gérant malhonnête, qui vole deux fois son patron, mais aussi celle du patron qui le félicite. Il faut qu'on change de point de vue à cet endroit du texte. Que l'on cherche ce que j'appellerais la portée spirituelle de ces échanges. Et on va découvrir des choses d'une importance capitale pour notre relation avec Dieu et notre relation avec les autres. Ce qui est dit ici, c'est que Dieu sait reconnaître la valeur d'un homme là où elle se trouve. Ce que le maître salue chez son brigand de gérant, c'est cette merveilleuse et désarmante prise en compte des autres. Cette faculté qu'il révèle là. De ces autres qui sont d'ailleurs aussi en difficulté que lui. Et nous en arrivons à la pointe de la parabole. Une sorte d'analyse et de conclusion, de pré-conclusion de Jésus qui dit « Les gens de ce monde sont bien plus habiles dans leur rapport les uns avec les autres » que ceux qui appartiennent à la lumière. Attendez, là, je vous ai un peu abandonné. Encore une, pardon. Avec cette répartie de Jésus, avec cette parole, sœurs et frères, je crains que nous ayons à passer un mauvais moment. Encore. Je crois même... Mais alors c'est très personnel, je crois même que je n'ai jamais entendu de parole aussi dure dans la bouche de Jésus, dans tout l'Évangile, à l'encontre de ses disciples et par extension de son Église. Ce que Jésus est en train de dire ici à ses disciples, et donc à nous, c'est qu'il n'est pas rare que les gens du dehors, qui vivent sans Dieu, sans Église, soient plus fins en relation que ne le sont les chrétiens. Les non-chrétiens, dans leurs relations courantes, professionnelles, personnelles, n'ignorent pas qu'ils ont besoin les uns des autres. Le plus commun des mortels sait qu'il n'est pas avantageux de chercher des poux sur la tête de son collègue au travail, même s'il peut lui arriver de le faire. Mais ça peut vite se retourner contre lui. Chacun sait que rien ici-bas n'est possible dans les rapports humains sans un peu de prévenance, d'indulgence, de compréhension et même un peu de calcul. Comment se fait-il alors que les enfants de lumière, ceux qui sont assis au pied du Christ, ceux-là même qui portent dans leur cœur le message d'amour et d'espérance pour le monde, comment se fait-il que les enfants de lumière soient si prompts à critiquer, à juger, à démolir, à accabler? Cette question fait mal. Comment se fait-il que là où les païens, sur des factures de sang, sont capables d'écrire 50, comment se fait-il que les enfants de lumière, eux, inscrivent 200? Pour Jésus, c'est incompréhensible, c'est un contre-témoignage, c'est absurde, c'est révoltant. Les enfants de lumière que nous sommes devraient se souvenir un peu d'où ils viennent. N'ont-ils pas été eux-mêmes libérés par le Christ de toutes leurs fautes? N'ont-ils pas été brebis perdus, fils prodigues, retrouvés et puis arrachés aux griffes de la mort par la seule grâce de Dieu. Fort de tout ce travail que Dieu, dans nos vies, a accompli, nous devrions aujourd'hui tenir une attitude modeste et prudente à l'égard de tous, et en particulier des perdus, des égarés, des non-croyants, comme on dit. Et aux responsables de l'Église, il est demandé de compter plutôt moins que trop, de diminuer par principe les dettes, de préférer l'éponge à l'ardoise. Le ministère chrétien, c'est celui du pardon, sœurs et frères, c'est celui du soulagement de la culpabilité et de la souffrance. Il nous est demandé de devenir injustes par amour pour les autres. Il nous est demandé de devenir déséquilibrés dans nos jugements, mais toujours au profit de la grâce et du pardon. Même et surtout quand il y a beaucoup à reprocher. Soyons prudents ou avisés, selon les versions, intelligents en somme. Soyons intelligents dans nos paroles et modestes dans nos critiques et modérés en matière de jugement des autres. Faites-vous des amis avec les richesses trompeuses de ce monde, afin qu'au moment où elles n'existeront plus pour vous, on vous reçoive dans les demeures éternelles. Pour finir, Jésus évoque de façon assez mystérieuse, assez étrange, cette parole, il faut y revenir, parce qu'elle est inépuisable. Il évoque de façon assez mystérieuse une dimension qui est assez peu connue du salut. Une dimension du salut que j'appellerais communautarisée. Je m'explique. Et je vais m'arrêter vite, je vous rassure. Les protestants ont une vision très individualiste du salut. Et sans vouloir aucunement remettre en cause l'une des affirmations majeures, de la Réforme et du Nouveau Testament avant lui, avant elle, celle de la justification par la foi, je nous invite simplement à nous ouvrir à cette parole étonnante et assez mystérieuse de Jésus. Et si, voyons, si à un moment, juste un moment, nous envisagions notre salut, non pas dans la seule verticalité, face à face avec Dieu, mais en relation étroite avec le salut des autres. Juste un moment. N'est-il pas vrai que celui qui est incapable de pardonner son prochain ne sait pas encore ce que veut dire pour lui-même le mot pardon, le mot salut? Être sauvé par grâce, c'est accepter que ce salut nous parvienne par les autres et qu'il aille ensuite de moi vers eux. Jésus nous dit ici qu'on n'est pas sauvé tout seul dans son coin, mais grâce et avec beaucoup d'amis, beaucoup d'amis. Je le reformulerai pour terminer d'une façon simple en vous disant que, d'une certaine manière, le salut pour moi ce matin, c'est vous. C'est d'être avec vous. Nous sommes tous ministres du pardon. Tous serviteurs de la grâce et de l'amour auprès des autres. Eh bien, il semble que l'Église ait besoin de se l'entendre dire de temps à autre. C'est vraiment toute sa richesse que Dieu nous a confiée dans ce ministère de la remise des dettes. Employons-nous à la distribuer généreusement à tous. Le temps est venu, frères et sœurs, d'accueillir ici, dans ce lieu et sans condition, avec intelligence et affection, tous les nouveaux amis que Dieu voudra bien nous envoyer.